Volume 2, Appendice, Section 17, Résumé de la situation. La question tout entière a été soumise au lecteur sous ses deux faces, et c'est à lui qu'il appartient de décider si l'ensemble est en notre faveur ou non. S'il existait dans la nature quelque chose ressemblant à un vide, on devrait en constater l'existence, conformément à une loi physique, dans le cerveau des impuissants admirateurs des lumières de la science qui passent leur temps à détruire mutuellement leurs enseignements. Si jamais la théorie d'après laquelle deux lumières produisent l'obscurité a trouvé son application, c'est dans ce cas où une moitié des lumières impose ses forces et ses modes de mouvement à la foi des fidèles et où l'autre moitié en nie jusqu'à l'existence. L'éther, la matière, l'énergie, la trinité hypostatique sacrée, les trois principes du Dieu véritablement inconnu de la science, qu'ils appellent nature physique. La théologie est prise à partie et ridiculisée parce qu'elle croit à l'union de trois personnes en une divinité, un seul Dieu, quant à la substance, trois personnes quant à l'individualité, et on se moque de nous parce que nous croyons à des doctrines qui ne sont pas prouvées et ne peuvent l'être, à des anges et à des démons, à des dieux et à des esprits. En effet, ce qui a donné la victoire à la science contre la théologie, dans le grand conflit entre la religion et la science, c'est précisément la remarque que ni l'identité de cette substance, ni la triple individualité proclamée, après avoir été conçue, inventée et parachevée dans les profondeurs de la conscience théologique, n'ont pu être établies par aucun procédé inductif de raisonnement scientifique, et encore moins par le témoignage de nos sens. La religion doit périr, dit-on, parce qu'elle enseigne des mystères. Le mystère est la négation du sens commun, et la science le repousse. Suivant Tyndall, la métaphysique est une fiction, comme la poésie. Le savant n'accepte rien de confiance. Il repousse tout ce qui ne lui est pas prouvé. Tandis que le théologien accepte tout avec une foi aveugle. Le théosophe et l'occultiste, qui n'acceptent rien de confiance, pas même la science exacte, le spirit qui nie les dogmes mais croit aux esprits et à des influences invisibles mais puissantes, tous sont englobés dans le même mépris. Fort bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de rechercher pour la dernière fois si la science exacte n'agit pas précisément de la même façon que la théosophie, le spiritisme et la théologie. Dans un ouvrage de S. Lang, considéré comme un livre modèle sur la science, Modern Science and Modern Thought, ouvrage dont l'auteur, selon l'article élogieux que lui consacre le Times, expose d'une manière puissante et saisissante les immenses découvertes de la science et les nombreuses victoires qu'elle a remportées sur les antiques opinions, toutes les fois que celles-ci ont eu l'audace de défier ses conclusions, nous lisons ce qui suit. Citation. De quoi l'univers matériel est-il composé? D'éther, de matière et d'énergie. Fin de citation. Nous nous arrêtons pour demander qu'est-ce que l'éther? Et Lang répond au nom de la science. L'éther ne nous est encore connu par aucun test qui soit à portée de nos sens, mais c'est une sorte de substance mathématique dont nous sommes obligés d'admettre l'existence afin de pouvoir expliquer les phénomènes de lumière et de chaleur. Fin de citation. Et qu'est-ce que la matière? Êtes-vous mieux renseigné à son sujet qu'au sujet de cet agent hypothétique, l'éther? Citation. À strictement parler, il est vrai que les recherches chimiques ne nous donnent aucun renseignement direct sur la composition de la matière vivante, et il est aussi strictement vrai que nous ne savons rien de la composition d'aucun corps matériel tel qu'elle existe. Extrait de Lecture on Protoplasm par Huxley. Fin de citation. Et l'énergie? Sûrement, vous pouvez définir la troisième personne de la Trinité de votre univers matériel. Nous pouvons puiser la réponse dans n'importe quel traité de physique. L'énergie est ce que nous ne connaissons que par ses effets. Expliquez-vous, je vous prie, car cela est plutôt vague. Citation. En mécanique, il y a l'énergie réelle et l'énergie potentielle. Le travail réellement accompli et le pouvoir de l'accomplir. En ce qui concerne la nature de l'énergie moléculaire ou des forces, les divers phénomènes que présentent les corps prouvent que leurs molécules subissent l'influence de deux forces contraires, dont l'une tend à les rapprocher et l'autre à les séparer. La première force est appelée l'attraction moléculaire. La seconde est due à la vis visa ou force impulsive. Fin de citation, extrait de Physics de Gano. Précisément, c'est la nature de cette force impulsive, de cette vis viva que nous voulons connaître. Quelle est-elle ? Nous l'ignorons, telle est la réponse invariable. C'est une ombre creuse de mon imagination, dit le professeur Huxley dans sa Physical Basis of Life. Tout l'édifice de la science moderne a donc pour base une sorte d'abstraction mathématique, une substance protéenne qui élude l'essence, entre parenthèses Dubois-Raymond, et des effets qui sont comme les illusoires feux follets de quelque chose entièrement inconnu et hors de la portée de la science. Des atomes automoteurs, des soleils, des planètes et des étoiles automoteurs. Mais enfin, qui sont-ils ou que sont-ils tous s'ils possèdent ainsi par eux-mêmes le mouvement? Pourquoi donc, vous, les physiciens, vous moqueriez-vous de notre archer automoteur? La science repousse et méprise le mystère, mais comme le dit si bien le père Félix, elle ne peut y échapper. Le mystère est la fatalité de la science. Nous nous associons aux paroles du prédicateur français que nous avons cité dans Isis dévoilée. Qui demande-t-il, qui de vous, ô savant, citation, s'est montré capable de pénétrer le secret de la formation d'un corps, de la génération d'un simple atome? Qui a-t-il, je ne dirais pas au centre d'un soleil, mais au centre d'un atome? Qui a sondé jusqu'au fond l'abîme qu'offre un grain de sable? Le grain de sable, messieurs, a été étudié par la science durant des milliers d'années. Elle l'a tourné et retourné, elle le divise et le subdivise, elle le torture par ses expériences, elle le tourmente par ses questions pour lui arracher le dernier mot de sa constitution secrète. Elle lui demande avec une insatiable curiosité. Faudra-t-il te diviser d'une manière infinitésimale? Suspendue au-dessus de cet abîme, la science hésite, elle perd pied, elle se sent éblouie, elle se sent prise de vertige et s'écrie dans son désespoir « Je ne sais pas ». Si vous êtes aussi complètement ignorant au sujet de la genèse et de la nature cachée d'un grain de sable, comment pourriez-vous avoir l'intuition de la génération d'un seul être vivant? D'où l'être vivant tire-t-il sa vie? Où commence-t-elle? Qu'est-ce que le principe vital? Fin de citation. Voyez le volume 2, page 63, citation tirée des conférences faites à Notre-Dame par le père Félix sur le mystère et la science. Les savants nient-ils toutes ces accusations? En aucune façon, car voici un aveu de Tyndall qui prouve à quel point la science est impuissante, même en présence du monde de la matière. Citation. La marche originale des atomes, dont dépendent toutes les actions subséquentes, défie un pouvoir plus puissant que celui du microscope. En raison même de leur excessive complexité et bien avant que l'observation puisse avoir voix au chapitre, l'intellect le plus exercé, l'imagination la plus subtile et la plus disciplinée, reculent effarés devant l'examen du problème. Nous sommes frappés de mutisme par une stupéfaction dont aucun microscope ne peut nous délivrer. Et non seulement nous doutons de la puissance de notre instrument, mais encore nous nous demandons si nous possédons nous-mêmes les éléments intellectuels qui nous permettront d'arriver un jour à la compréhension des énergies structurales ultimes de la nature. Fin de citation. Il y a du reste bien des années que l'on soupçonne à quel point nous connaissons peu l'univers matériel, et cela de l'aveu même de ces savants. Il y a même aujourd'hui des matérialistes qui voudraient se débarrasser de l'éther, si c'est là le nom que donne la science à la substance infinie, dont les bouddhistes appellent le noumen svabhavat, en même temps que des atomes, tous deux trop dangereux à cause de leurs anciennes associations philosophiques et de leurs associations actuelles chrétiennes et théologiques. Depuis les premiers philosophes, dont les archives ont été transmises à la postérité, jusqu'à notre époque actuelle, qui, tout en niant l'existence d'êtres invisibles dans l'espace, ne saurait jamais pousser la folie jusqu'à nier l'existence d'un plénum quelconque. La plénitude de l'univers a toujours été une croyance acceptée. Quant à ce qu'il renfermait, on l'apprend par Hermès Trismégiste, auquel on fait dire, dans l'habile traduction du docteur Anna Kingsford, citation, en ce qui concerne le vide, j'estime qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé et qu'il n'existera jamais, car toutes les parties de l'univers sont remplies, comme la terre aussi est pleine et remplie de corps qui diffèrent par la qualité et par la forme, qui ont chacun son genre et sa dimension, l'un grand, l'autre plus petit, l'un solide, l'autre raréfié. Les grands se voient aisément, les petits sont difficiles à percevoir ou tout à fait invisibles. Nous ne connaissons leur existence que par les sensations que nous éprouvons. Aussi beaucoup de personnes nient-elles que ces entités soient des corps et les considèrent-elles comme de simples espaces. Mais l'existence de tels espaces est impossible. Note. Considérez l'œuvre des cycles et leur retour périodique. Ceux qui niaient que ces entités, ces forces fussent des corps et les appelaient espaces, furent les prototypes du public hypnotisé par la science et de ses instructeurs officiels, qui parlent des forces de la nature comme de l'énergie impondérable de la matière et comme des modes de mouvement, et qui pourtant considèrent l'électricité, par exemple, comme étant aussi atomique que la matière elle-même. Voir Helmholtz. L'inconséquence et la contradiction règnent en maîtresse sur la science officielle comme sur la science hétérodoxe. Fin de note. En effet, s'il existait quelque chose en dehors de l'univers, ce serait alors un espace occupé par des êtres intelligibles analogues à sa divinité, entre parenthèses la divinité de l'univers. Je parle des génies, car j'estime qu'ils habitent avec nous, et les héros qui habitent au-dessus de nous, entre la Terre et l'atmosphère supérieure, là où il n'y a ni nuages, ni tempêtes. Fin de citation. Extrait de The Virgin of the World d'Hermès Mercure Trismégiste, traduction anglaise du docteur Anna Kingsford et d'Edouard Maitland. C'est ce que nous estimons aussi. Seulement, comme nous l'avons déjà fait observer, aucun initié oriental ne ferait mention de sphères au-dessus de nous, entre la Terre et l'atmosphère, même s'il s'agit des plus hautes, attendu que le langage occulte ne comporte ni division ni mesure de ce genre, pas au-dessus, ni au-dessous, mais un éternel dedans, dans deux autres dedans, où les plans de la subjectivité se fondent graduellement dans celui de l'objectivité terrestre, qui pour l'homme est le dernier, son propre plan. Nous pouvons terminer cette explication indispensable en donnant dans les termes dont s'est servi Hermès la croyance sur ce point particulier de tout le monde des mystiques. Citation. Il existe de nombreuses catégories de dieux, et dans toutes il y a une partie intelligible. Il ne faut pas supposer qu'ils ne rentrent pas dans le champ qu'embrassent nos sens. Au contraire, nous les percevons, mieux même que ceux que l'on appelle visibles. Il y a donc des dieux supérieurs à toute apparence. Après eux, viennent les dieux dont le principe est spirituel. Ces dieux, étant sensibles, intelligents, conformément à leur double origine, manifestent toutes choses par une nature sensée, chacun d'eux éclairant ses œuvres l'une par l'autre. Note. Hermès comprend ici, parmi les dieux, les forces intelligentes de la nature, les éléments et les phénomènes de l'univers, fait remarquer le docteur Anna Kingsford dans une note marginale qui donne une explication très correcte. La philosophie orientale fait de même. Fin de la note. L'être suprême du ciel, ou de tout ce que l'on comprend sous ce nom, est Zeus, car c'est par le ciel que Zeus donne la vie à toute chose. L'être suprême du soleil est la lumière, car c'est par le disque du soleil que nous bénéficions de la lumière. Les 36 horoscopes des étoiles fixes ont pour être suprême ou prince celui dont le nom est Pantomorphos, qui possède toutes les formes parce qu'il donne des formes divines à divers types. Les 7 planètes ou sphères errantes ont pour esprit suprême la fortune et la destinée qui maintiennent l'éternelle stabilité des lois de la nature au milieu d'incessantes transformations et de perpétuelles agitations. L'éther est l'instrument ou milieu par lequel tout est produit. Fin de citation. Cela est tout à fait philosophique et s'accorde avec l'esprit de l'ésotérisme oriental, car toutes les forces, telles que la lumière, la chaleur, l'électricité, etc., sont appelées dieux, ésotériquement. Il doit vraiment en être ainsi, puisque les enseignements ésotériques étaient les mêmes en Égypte et en Inde. C'est pourquoi la personnification de Fohat, pour synthétiser toutes les forces de la nature qui se manifestent, constitue un résultat légitime. De plus, ainsi que nous l'établirons plus tard, les forces réelles et occultes de la nature ne font que commencer à être connues, et même dans ce cas par la science hétérodoxe et non par la science orthodoxe, bien que leur existence, dans un exemple tout au moins, soit corroboré et certifié par un nombre immense de personnes instruites et même par quelques savants officiels. Note, voyez aussi section 9, la force de l'avenir. Fin de la note. En outre, l'affirmation que contient la stance 6, que Foat met en mouvement les germes primordiaux du monde ou l'agrégat des atomes cosmiques et de matière, les uns d'une façon, les autres d'une autre, dans la direction opposée, cette affirmation, dis-je, semble suffisamment orthodoxe et scientifique. En effet, il existe, en tout cas à l'appui de cette opinion, un fait parfaitement reconnu par la science et c'est celui-ci. Les pluies de météores, périodiques en novembre et en août, font partie d'un système qui se meut autour du Soleil suivant une orbite elliptique. L'aphélie de cet anneau se trouve à 1732 millions de miles au-delà de l'orbite de Neptune. Son plan est incliné sur l'orbite de la Terre suivant un angle de 64°3 et la direction de l'essaim de météores qui se meut suivant cette orbite est contraire à celle de la révolution de la Terre. Ce fait, reconnu en 1833 seulement, démontre que c'est la redécouverte moderne de ce qui était très anciennement connu. Foat tourne avec ses deux mains et en sens contraire la semence et le lait caillé ou matière cosmique. Pour parler plus clairement, il tourne des particules dans un état extrêmement raréfié et des nébuleuses. En dehors des limites du système solaire, ce sont d'autres soleils, et particulièrement le mystérieux soleil central, la demeure de la divinité invisible, comme certains révérends l'ont appelé, qui détermine le mouvement et la direction des corps. Ce mouvement sert aussi à différencier la matière homogène, autour et entre les différents corps, en éléments et en sous-éléments inconnus sur notre Terre, et que la science moderne considère comme des éléments distincts et individuels, tandis que ce ne sont que des aspects temporaires qui changent avec chacun des petits cycles du Manvantara, et que les ouvrages ésotériques appellent des masques kalpiques. Foat est, en occultisme, la clé qui ouvre et résout les symboles et les allégories multiformes de la prétendue mythologie de chaque nation, qui démontre la merveilleuse philosophie et la profonde connaissance des mystères de la nature contenus dans les religions des Égyptiens et des Chaldéens, aussi bien que celles des Aryens. Foat, présenté sous son vrai jour, prouve à quel point toutes ces nations préhistoriques étaient versées dans toutes les branches de la nature, que l'on appelle aujourd'hui les branches physiques et chimiques de la philosophie naturelle. En Inde, Foat représente l'aspect scientifique de Vishnu et d'Indra, et ce dernier est plus ancien et plus important dans le Rig Veda que son successeur sectaire, tandis qu'en Égypte, l'on reconnaît Foat sous le nom de Tum, issu de Nut. Note. Ô Tum, Tum, issu de la grande femelle qui est dans le sein des eaux, le grand abîme ou espace, lumineux à travers les deux lions, la force double ou le pouvoir des deux yeux solaires, ou la force électropositive et la force électronégative. Voyez le livre des morts, chapitre 3. Fin de la note. En Égypte, l'on connaissait Foat sous le nom de Tum, issu de Nut, ou Osiris, en sa qualité de dieu primordial créateur du ciel et des êtres. En effet, on parle de Tum comme du dieu protéen qui génère d'autres dieux et prend lui-même la forme qui lui plaît, comme du maître de la vie qui confère aux dieux leur vigueur. C'est le surveillant des dieux et celui qui crée les esprits et leur donne forme et vie. C'est le vent du nord et l'esprit de l'occident. Et finalement, c'est le soleil couchant de la vie, ou la force électrique vitale qui abandonne le corps à la mort. C'est pourquoi le défunt prie Tum de lui donner le souffle de sa narine droite, entre parenthèses électricité positive, afin qu'il puisse vivre sous sa seconde forme. L'hiéroglyphe aussi bien que le texte du chapitre 42 du Livre des Morts prouve l'identité de Tum et de Foat. Le dessin représente un homme debout tenant dans ses mains l'hiéroglyphe des souffles. Le texte dit, citation, « J'ouvre au chef de An Héliopolis. Je suis Tum, je traverse l'eau répandue par Thoth Api, le seigneur de l'horizon, et je suis le diviseur de la terre. » Entre parenthèses, Foat divise l'espace et avec ses fils la terre en sept zones. « Je traverse les cieux, je suis les deux lions. Je suis Ra, je suis Ham, je dévore mon héritier. Je glisse sur le sol du champ d'Anru, qui m'a été donné par le maître de l'éternité sans limite. Je suis un germe d'éternité, je suis Tum, à qui l'éternité est accordée. » Note numéro 1. C'est une image. qui exprime la succession des fonctions divines, la transmutation d'une forme en une autre, ou la corrélation des forces. Âme, c'est la force électropositive qui dévore toutes les autres, comme Saturne dévorait sa progéniture. Fin de la note. Note numéro 2. Anru, c'est dans le domaine d'Osiris un champ divisé en 14 sections, entouré d'une enceinte de fer, dans l'intérieur de laquelle croît le froment de la vie de 7 coudées de haut, le Kamaloka des Égyptiens. Parmi les morts, ceux-là seuls qui connaissent les noms des gardiens des portes des 7 salles seront admis dans l'Amenti pour toujours, c'est-à-dire ceux qui ont passé par les 7 races de chaque ronde. Autrement, ils resteront dans les champs inférieurs, et cela représente aussi les 7 dévacants ou lokas successifs. Dans l'Amenti, on devient un pur esprit pour l'éternité. Chapitre 30, verset 4. Tandis que dans l'Anru, l'âme de l'esprit, ou le défunt, est dévoré chaque fois par Ureus, le serpent fils de la terre, dans un autre sens les principes vitaux primordiaux du soleil, c'est-à-dire que le corps astral du défunt ou l'élémentaire s'efface et disparaît dans le fils de la terre, le temps limité. L'âme quitte les champs d'Anru et va sur terre sous la forme qu'il lui plaît de prendre. Fin de la note, numéro 2. Ce sont les paroles mêmes que prononce Foat dans le 11e livre et les titres qu'on lui donne. Dans les papyrus égyptiens, toute la cosmogonie de la doctrine secrète se retrouve éparpillée en phrases isolées, même dans le livre des morts. On y appuie sur le nombre 7 et on lui donne de l'importance tout autant que dans le livre de Zion. Les grandes eaux, l'abîme ou chaos, est réputée être profond de 7 coudées. Le mot coudée veut évidemment dire ici division, zone et principe. Là, dans la grande mer, naissent tous les dieux et les 7 grands êtres. Foat et Toum sont tous deux qualifiés, par ceux qui s'adressent à eux, de grands êtres des 7 forces magiques, qui vainquent le serpent Apap, ou la matière. Aucun étudiant de l'occultisme ne devrait cependant être trompé par ces expressions employées d'habitude dans les traductions d'ouvrages hermétiques, au point de croire que les anciens Égyptiens ou Grecs faisaient à chaque instant allusion dans leur conversation, à la façon des moines, à un être suprême, Dieu, le Père unique, créateur de toutes choses, etc., comme on le constate à chaque page de ces traductions. Rien de semblable assurément, et ces textes ne sont pas les textes originaux des Égyptiens. Ce sont des compilations grecques, dont la plus ancienne ne remonte pas au-delà de la première période du néoplatonisme. Aucun livre hermétique écrit par des Égyptiens, comme nous le constatons par le Livre des Morts, ne fait mention de l'unique Dieu universel des systèmes monothéistes. L'unique cause absolue de tout était aussi innommable et inarticulable dans l'esprit de l'ancien philosophe égyptien qu'elle est à jamais inconnaissable, suivant la conception de Spencer. En ce qui concerne l'Égyptien, en général, comme le fait si bien remarquer Maspero, dès qu'il, citation, atteignait la notion de l'unité divine, le Dieu un n'était jamais Dieu tout court. Monsieur Lepage Renouf fait observer avec raison que le mot Nouter, Nouti, Dieu, n'avait jamais cessé d'être un nom générique pour devenir un nom personnel. Fin de citation. Pour eux, chaque Dieu était un Dieu vivant et unique. Citation. Leur monothéisme était purement géographique. Si l'Égyptien de Memphis proclamait l'unité de Ptah à l'exclusion de celle d'Amon, l'Égyptien de Thèbes proclamait l'unité d'Amon à l'exclusion de celle de Ptah, comme cela se passe de nos jours en Inde dans le cas des Shaivas et des Vaishnavas. Ra, le dieu unique d'Héliopolis, n'est pas le même qu'Osiris, le dieu unique d'Abydos, et peut être adoré en même temps par lui sans être absorbé par lui. Le dieu unique n'est autre que le dieu du nome ou de la cité, Nutir Nuti, et n'exclut pas l'existence du dieu unique de la ville ou du nome voisin. Bref, toutes les fois que nous parlons du monothéisme égyptien, nous devons parler des dieux uniques de l'Égypte et non du dieu unique. Fin de citation. C'est à l'épreuve de ce trait distinctif, éminemment égyptien, que l'on devrait soumettre les nombreux ouvrages prétendus hermétiques, et il est totalement absent dans les fragments grecs qui sont connus sous ce nom. Cela prouve qu'une main grecque, néo-platonicienne ou peut-être chrétienne, a largement participé à la confection de ces ouvrages. Assurément, la philosophie fondamentale s'y trouve et dans bien des endroits, intacte. Mais le style a été altéré et adouci dans un sens monothéiste, autant si ce n'est plus que le texte hébreu de la Genèse dans ses traductions grecques et latines. Il se peut que ce soit des ouvrages hermétiques, mais ce ne sont pas des ouvrages écrits par l'un des deux Hermès, ou plutôt par Thoth Hermès, l'intelligence directrice de l'univers, ou par Thoth, son incarnation terrestre, le trismégiste de la pierre de Rosette. Mais tout est doute, négation, iconoclasme et brutale indifférence à notre époque qui compte une centaine de ismes et pas une religion. Toutes les idoles sont brisées sauf le veau d'or. Malheureusement, les nations, pas plus que les groupes et les individus, ne peuvent échapper à leur destinée karmique. Les soi-disant historiens traitent l'histoire avec aussi peu de scrupules qu'ils traitent les légendes. À ce sujet, Augustin Thierry a fait une amende honorable, si l'on en croit ses biographes. Il a déploré les principes erronés qui ont égaré les prétendus historiographes et ont fait croire à chacun qu'il corrigeait la tradition. Cette vox populi qui 9 fois sur 10 est vox dei. Et il a fini par admettre que l'histoire vraie ne se trouve que dans la légende, car il ajoute, citation, « La légende, c'est la tradition vivante et 3 fois sur 4, elle est plus vraie que ce que nous appelons l'histoire. » Fin de citation, extrait de la Revue des Deux Mondes de 1865. Tandis que les matérialistes nient tout dans l'univers, sauf la matière, les archéologues essaient de rapetisser l'Antiquité et cherchent à détruire toute prétention à la sagesse antique en jouant avec la chronologie. Nos orientalistes et nos historiens actuels sont, pour l'histoire ancienne, ce que les termites sont pour les maisons en Inde. Plus dangereux encore que ceux-ci, les archéologues modernes, les autorités de l'avenir en matière d'histoire naturelle, préparent à l'histoire des nations disparues le sort de certains édifices des pays tropicaux. Comme l'a dit Michelet, citation, l'histoire tombera et se brisera en atomes dans le courant du XXe siècle, dévorée jusque dans ses fondations par ceux qui rédigent ses annales. Fin de citation. Dans très peu de temps, sous leurs efforts combinés, elle partagera le sort de ces cités en ruine des deux Amériques qui gisent profondément enfouies sous d'infranchissables forêts vierges. Les faits historiques resteront cachés au regard par les jungles inextricables des hypothèses modernes, des démentis et du scepticisme. Fort heureusement, l'histoire réelle se répète, car elle procède par cycles, comme toute chose, et les faits passés ainsi que les événements noyés de propos délibérés dans l'océan du scepticisme moderne remonteront une fois de plus pour apparaître à la surface. Dans les volumes suivants, l'assertion qu'un ouvrage qui a des prétentions à la philosophie, qui est aussi l'exposé des problèmes les plus abstraits, doit commencer par décrire l'évolution de l'humanité depuis ceux que l'on considère comme des êtres surnaturels, des esprits. Cette assertion soulèvera les critiques les plus malveillantes. Néanmoins, ceux qui croient à la doctrine secrète et la défendent devront supporter l'accusation de folie, et pis encore, aussi philosophiquement que l'a fait l'auteur depuis de longues années. Toutes les fois qu'un théosophe est accusé d'insanité, il devra répondre par la citation suivante des lettres persanes de Montesquieu, citation, « En ouvrant si facilement leurs hospices d'aliénés à leurs prétendus fous, les hommes ne cherchent qu'à s'assurer mutuellement qu'ils ne sont pas fous eux-mêmes. » Fin de citation. Et fin du second volume de la Doctrine secrète.